Bienvenue au balado Ancrage Travail, la parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice et réalisatrice du balado Ancrage Travail, le balado qui veut faire entendre la voix des personnes mûres et expérimentées au parcours diversifié et celle de gestionnaires d'entreprises innovantes sur des enjeux de société qui nous interpellent et la place qu'ils occupent dans nos vies. Mon invitée est sœur Monique Bourget, originaire de Montréal et diplômée de la Faculté de médecine de l'Université McGill. Elle a suivi 2 années d'études religieuses à Milan et une résidence de 2 ans en médecine familiale à l'hôpital St. Mary's de Montréal. En 1994, à la demande de son ordre religieux, les sœurs Sainte-Marceline, elle a émigré à São Paulo, au Brésil, où elle a obtenu une spécialisation en administration, une maîtrise en épidémiologie, en plus d'obtenir un doctorat en santé publique. Ses expériences sur le terrain au Brésil et en Afrique sont nombreuses et ses accomplissements impressionnants. Vous l'entendrez parler de ses motivations en lien avec les missions qu'elle a menées avec tant d'humilité. Ses accomplissements sont exceptionnels compte tenu des conditions de vie de pauvreté sur le terrain avec peu de ressources financières et humaines. Découvrez cette femme d'action unique qui a su mener avec brio et en toute humanité 2 vocations parallèles auprès de populations qui vivent dans des conditions précaires. Bonne écoute. Bonjour, sœur Monique, ça va bien?
Oui, merci beaucoup, Linda, pour ce podcast. Merci de m'inviter pour partager mon expérience.
On va commencer, en fait, par votre formation, vos études.
Oui, donc j'étais élève au Collège Sainte-Marceline de 79 à 83. Donc, ça fait 40 ans cette année que j'ai gradué du secondaire. Et après, je suis allée au cégep John Abbott. Il m'habitait une demande sur la pauvreté. Je voyais beaucoup à la télévision des images d'UNICEF. Puis ça me questionnait. Puis je me disais, ben, je voudrais aller voir de près. Parce qu'ici, au Canada, c'est pas qu'il y a les pauvres. Il y a des pauvres, il y a des personnes qui ont des nécessités. Mais le gouvernement aide quand même un peu. Puis à cause du froid, bon, les personnes, on voit pas physiquement les personnes qui sont pauvres. Alors, j'ai fait l'expérience au Guatemala. Entre mes 2 années de cégep. Enfin, c'est ce qui a déclenché. Dans le fond, il y avait une recherche existentielle aussi. Mes frères et sœurs étaient en train de se marier. Moi, je suis la plus jeune de 5 enfants. Et quand je suis arrivée au Guatemala, donc, j'ai vu ces personnes. Et j'ai vu surtout les religieuses avec lesquelles je restais. J'étais avec des capucines.
Okay.
Et donc, j'ai vécu un peu avec elles. Elles ont, enfin, animé encore en plus en moi l'esprit de prière. Mais dans une des visites qu'on avait faites avec des familles, c'est ce qui m'avait plus touchée parce que la famille n'avait rien. Elle était dans une maison de bambou. Mais même en n'ayant rien, ils voulaient nous donner un verre d'eau. Mmh. Et ça m'avait vraiment beaucoup touchée. Et quand on est sorti de cette maison, il y avait dans un petit... La rue, l'espace, il y avait un petit qui était nu, il y avait rien, il n'y avait pas de culotte ou rien, il y avait un t-shirt déchiré. Et ça m'a vraiment... On s'est regardé les deux, la sœur était déjà partie, elle m'appelait, mais moi, j'étais figée devant l'enfant. Et c'est venu en moi, vraiment l'évangile de Matthieu qui dit « J'avais faim et tu m'as donné à manger. Mmh. J'avais soif et tu m'as donné à boire. J'étais nue et tu m'as vêtue. » Et ça a été vraiment un déclic pour moi. Tu sais, des fois, dans nos vies, on a des moments particuliers qui nous appellent. Et ça, donc, je suis rentrée chez les sœurs le soir, puis je leur disais que, c'est ça, j'avais été bouleversée par cet enfant-là. Et à ce moment-là, ça a été fort, puis je disais, je veux donner ma vie au Seigneur.
Mmh. Alors, c'est aussi fort, hein? C'est
oui, ça. Ouais. Oui, ça a été vraiment décisif pour moi, ce moment-là. Et donc, quand je suis revenue, c'est au Canada. Hein,
vous êtes restée combien de temps?
Un mois.
Okay.
Oui, c'était entre mes 2 années de cégep. J'étais lifeguard à l'époque, j'avais des amis, j'avais toute une jeune bien entourée et bien active. Et donc, j'avais décidé à ce moment-là d'aller dans une congrégation religieuse. Et j'ai commencé à chercher différentes congrégations religieuses ici au Québec. Mais je suis revenue chez les sœurs où j'avais étudié, chez le Collège Sainte-Marceline. Parce qu'il y avait une sœur, entre autres, qui s'appelle Sœur Louise, qui a bouleversé la vie de plusieurs personnes. et c'est elle qui m'a aidée, qui m'a guidée. Et vraiment, le Seigneur m'a appelée à avoir une vocation spéciale parce qu'à ce moment-là aussi, ma famille n'était pas trop d'accord. Hein, comme plusieurs familles, quand une personne annonce que tu vas faire une vie religieuse, que tu vas rentrer. Et donc, j'ai fait application en médecine en même temps parce que la congrégation était d'accord. Puis la famille m'a poussée et disait, mais tu dois étudier, tu dois aider à faire quelque chose. Mon beau-frère est médecin de famille et c'est une personne inspirante pour moi aussi. Alors, à ce moment-là, j'ai fait application à McGill puis à Montréal. Puis j'ai été acceptée dans les deux facultés.
OK.
Qui n'est pas usuel. Hein? C'est difficile de rentrer en médecine. Puis pour moi, ça a été un signe. Et comme je devais rentrer en congrégation religieuse, je devais faire une formation religieuse, donc les négociations avec les universités, ça a été plus facile avec McGill, qui aussi avait dans son conseil à l'époque une maman d'élève des Marcelines. Tu vois, le Seigneur prépare toutes sortes de choses. Puis, enfin, donc j'ai pu rentrer en médecine, en pré-med. Et après 15 jours, je suis rentrée en congrégation religieuse. Wow. Alors, j'ai fait ma formation religieuse parallèlement à ma formation de médecin. Après mon pré-med, je suis partie 2 ans en Italie pour faire ma formation religieuse comme telle, qu'on appelle le noviciat. Et donc, après, je suis revenue, j'ai terminé ma médecine. J'ai fait mes premiers vœux, donc, en 1988, au niveau de... ça fait 35 ans. Après, donc, je suis revenue, j'ai fait ma médecine à McGill et j'ai fait la spécialisation à St. Mary's, en résidence de médecine de famille. Parce que là aussi, donc, mon beau-frère disait, « Mais si tu vas en médecine de famille, ça va t'ouvrir les portes pour toutes sortes de choses. » Voilà. Et après 6 mois, donc, que j'avais terminé ma résidence en médecine de famille, j'ai travaillé un petit peu ici à Montréal. Et la congrégation m'a demandé d'aller au Brésil.
Comment vous avez été choisie? Comment c'est arrivé, ça, cette idée d'aller justement au Brésil?
Bon, donc, en vie religieuse, la congrégation a un conseil, hein, une mère générale. Et eux, ils regardent un peu tous les besoins de la congrégation. Et comme ici, au Canada, on n'a pas vraiment le domaine de la santé, on est surtout dans l'éducation. Il y a le Collège Sainte-Marceline, il y a une maison pour personnes âgées qui s'appelle l'Amitié, et il y a la Villa Sainte-Marceline. Mais on n'est pas impliqué vraiment au niveau de la santé. Alors, comme au Brésil, il y avait un hôpital, et il y avait une autre sœur médecin, et il y avait des nécessités parce que l'hôpital était déjà très grand. Alors, ils ont demandé à ce que j'aille là-bas. Et vraiment, bon, je dis que j'étais la bonne personne à la bonne place, au bon moment et bien entourée. Parce que, donc, en 94, la fin 94, quand je suis arrivée au Brésil, la médecine de famille n'était pas tellement développée.
D'accord.
Et surtout dans la ville de São Paulo, où j'étais, la médecine de famille, je disais aux personnes, je suis médecin de famille, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'un médecin de famille fait? Et j'en disais, mais le médecin de famille, il accompagne de l'enfant jusqu'à les personnes âgées, il accompagne toute la famille, il travaille dans les postes de santé et tout. Mais c'était pas quelque chose qui existait. Hein? Et donc, le gouvernement, à ce moment-là, en 94, avait commencé au niveau fédéral le programme de santé de famille. Mais ça existait dans deux petits villages, deux petites villes. Et ils voulaient commencer dans une grande ville. Et comme les sœurs avaient quand même un gros hôpital qui avait une bonne renommée, ils ont cherché les sœurs. Puis les sœurs ont dit, bon, on a une médecin de famille avec nous, qui est aussi une religieuse, et on peut commencer ce projet. Donc, ça a été le premier projet pilote dans une grande ville pour implanter le programme de santé de famille.
C'était dans l'est, je crois?
Oui, dans l'est de la ville de São Paulo, qui est un lieu quand même assez violent. Il y a des favelas, hein. C'est très densément populé. La densité populationnelle est 17 000 personnes par kilomètre carré. C'est énorme. Oui, oui. Alors, c'est ça. Donc, il y a eu un gros défi. On a commencé à travailler avec des agents communautaires. Il y avait une infirmière qui était avec moi, avec un autre médecin. On a commencé à travailler. Donc, au début, en 94, il y avait 27 équipes. On a commencé déjà avec 27 équipes. Et quand je suis partie 25 ans après, on avait 254 équipes qui étaient dans d'autres postes de santé aussi. Ça s'est diversifié comme travail. Hein. Ça a été un travail fantastique, vraiment. J'ai grandi beaucoup de collaboration, de travail avec des équipes de santé buccale. Puis à la fin, donc, on couvrait une population d'environ 2 millions de personnes. Comme un système de santé vraiment, hein, qui était en partenaire avec le gouvernement. C'est le gouvernement qui payait tous les employés et tout, mais on avait 12 000 employés. Okay. Puis moi, je coordonnais cette partie-là.
C'était combien d'employés avant le développement, avant 25 ans? C'était quoi le...
Au début, donc, on a commencé avec 200 employés, hein, okay, dans les premières équipes. Puis c'est ça. Donc, au long des 25 ans, ça s'est beaucoup diversifié. On a eu, donc, on avait plus d'une centaine de postes de santé. Mais c'est pas tout, parce que j'avais un pied dans les postes de santé, puis un pied dans l'hôpital aussi.
Oui. Donc, comment vous avez géré tout ça, là, je veux dire, l'adaptation au milieu, et puis là, c'était un travail immense. Comment vous envisagez ça quand vous êtes arrivé avec... Il y avait peu de ressources, dans le fond?
Il y avait quand même... Bon, le Brésil est quand même un pays riche, ouais, mais mal divisé, mal partagé. Alors... C'est ça, on parle toujours des inégalités au niveau de l'Amérique latine. Hein. C'est très fort. Il y a beaucoup bien riches, il y a beaucoup de pauvres. Mais je peux dire que le Brésil a été une école pour moi aussi. Et ça a été un pays qui m'a accueilli les bras ouverts. Mm-hmm. Hein. Je ne me suis pas jamais sentie pas désirée. Mais pour le contraire, le Canada était très bien coté, hein, parce qu'on disait que notre système de santé était un des meilleurs au monde. Et quand je disais que j'étais canadienne, bon, ils voulaient savoir. Il y a beaucoup de Brésiliens qui veulent venir ici au Canada. Mais donc, j'ai toujours eu beaucoup de partenariats avec les personnes. J'ai toujours travaillé beaucoup en équipe. Mm. Et ça a été vraiment un travail où j'ai grandi aussi professionnellement, parce que j'ai occupé beaucoup de... poste éventuellement de direction. Hein. Donc, j'ai eu l'opportunité, en 96, on a commencé les postes de santé. En même temps, en 98, j'ai eu l'opportunité de devenir la directrice d'un hôpital qui ouvrait.
Hein. Oh, wow.
Oui, j'ai dit, si j'étais restée au Canada, j'aurais jamais eu ces possibilités. Mmh. Et comme, de nouveau, parce que la congrégation était bien vue du ministère, c'était les premiers partenariats publics-privés. Donc, l'hôpital était public, mais géré, hein, justement, par les religieuses. Et donc, les religieuses m'ont donné aussi ce grand défi de devenir la première directrice technique d'un hôpital. Où, vraiment, j'ai eu des possibilités, au point de vue professionnel, incroyables, parce que un des crises que j'ai eu en arrivant au Brésil, c'était la maternité. Vraiment, c'était un choc culturel parce que...
À quel égard?
Oui, j'ai fait ma formation à St. Mary's et j'ai eu l'opportunité de travailler dans la maternité de La Salle, de Ville-La Salle, qui à ce moment-là commençait vraiment les chambres où on faisait le travail d'accouchement, l'accouchement et le post-accouchement aussi dans le même salle. Il y avait le mari, on faisait pas des épisiotomies à toutes les femmes, puis c'était vraiment une ambiance... d'un moment très spécial pour la famille, parce que je dis vraiment, l'accouchement, c'est un des plus beaux moments, et au point de vue professionnel, comme médecin, c'est vraiment des expériences les plus belles que j'ai vécues, parce qu'au moment où l'enfant naît, à ce moment-là, dans le couple arrête d'être un couple, il devient une famille. Mm-hmm. Hein? Et l'homme devient papa, la femme devient maman, mais les grands-parents aussi changent de nom, les oncles, les tantes, et enfin tout. Tout le monde change la dynamique de la famille à l'arrivée d'un enfant. Et pour moi, c'était un moment très spécial. Et quand je suis arrivée au Brésil en 94, c'était comme une ligne de production. Parce qu'il y avait, dans notre hôpital même, hein, des sœurs, il y avait 1000 accouchements par mois. Ça veut dire 30 accouchements par jour. C'était une folie. Et donc, pour accélérer les choses... Hein, il donnait du pitocin à tout le monde, qui est l'hormone pour accélérer le travail. Il faisait des épisiotomies à toutes les femmes. Puis avant aussi, il faisait le lavage, il faisait la trichotomie, qui est le rasage à toutes les femmes. Puis déjà à l'époque, l'Organisation mondiale de la santé disait que ce n'était pas nécessaire. Mais ça a pris du temps, hein, pour que je leur dise non. Je me suis fait amie avec les obstétriciens, parce que là-bas, il n'y avait pas de médecin de famille qui faisait les accouchements. J'ai commencé à faire quelques accouchements là-bas. Puis ils me regardaient parce qu'ils disaient, mais tu ne fais pas faire l'épisiotomie. J'ai dit, non, il n'y en a pas besoin pour ce cas-là. Il n'y en a pas besoin. Il faut que tu regardes, il faut que tu accompagnes la femme. Puis, enfin, Et quand on a commencé l'hôpital en 98, j'ai demandé à un obstétricien qui était devenu ami avec moi, il dit, écoute, on va commencer, on va faire quelque chose de différent là-bas. Puis lui, il n'était pas trop convaincu aussi des choses, mais j'ai dit, va voir au Canada comment ça se passe. Fait qu'il est venu au Canada, puis il s'est converti à l'humanisation des accouchements. Oui. Fait quand on a commencé l'hôpital en 98, il est devenu le chef de la maternité, il s'appelle Marcos Imayo. C'est ça, on a révolutionné un peu les soins de maternité. Mmh.
Hein. Est-ce que c'est un effet d'obtenir la même façon de faire avec les autres obstétriciens?
Oui, donc ouais. On a réussi vraiment, parce que lui était aussi influent et très convaincant et charismatique. Alors, on a travaillé beaucoup et on est devenu vraiment un hôpital modèle pour d'autres hôpitaux. On a réussi à diminuer le taux d'épisiotomie, on a amené la famille à participer. Puis maintenant, c'est chose courante au Brésil. Mais si ici, c'était normal il y a 25 ans, au Bénin, au Brésil, ça ne l'était pas du tout. Alors, je pense que c'était quelque chose de très important. Et aussi au niveau de la santé mentale, hein, parce qu'à l'époque, dans les hôpitaux, c'était comme des prisons. Il y avait des grillages partout et tout. Mmh. Et nous, quand on a commencé l'hôpital, on a vraiment humanisé. Hein. Ouais. On leur a laissé leurs propres vêtements parce que sinon, il y avait littéralement des vêtements de prison dans les hôpitaux. Ouais. Alors, c'est ça. Donc, plusieurs choses comme ça, on a réussi à travailler. Il y aurait beaucoup de choses à dire.
Ouais.
Mais je crois que ces deux aspects-là, on a travaillé beaucoup. Et ça m'a permis aussi, en ayant un petit hôpital, hein, géré petit, il y avait 260 lits, c'est pas tellement petit. Non. Mais par rapport au gros hôpital universitaire, ça m'a donné quand même un bagage et une expérience pour qu'en 2005, je devienne directrice du gros hôpital universitaire.
Laquelle, au Brésil, toujours?
Oui, toujours, qui était le premier des sœurs. Hein, les sœurs ont eu cet hôpital depuis 1961. Alors, c'est en 2005, je suis devenue directrice de ce gros hôpital, qui est un hôpital où il y a 42 spécialités. Hein? Donc, wow. Il y avait 400 médecins résidents.
Wow!
Et il y avait plus de 4000 employés dans l'hôpital.
Et c'est vous qui gérez ça, naturellement avec d'autres...
Oui, il y avait une religieuse qui était la présidente administratrice. Moi, de nouveau, j'étais la directrice technique, celle qui s'occupait des soins, qui coordonnait toutes les équipes médicales et d'infirmières et de tous les autres professionnels. Puis là aussi, on a eu la possibilité d'implanter toutes sortes de choses. Donc, ça a été les soins palliatifs, parce qu'il n'y avait pas de soins palliatifs. Donc, en 2008, on a monté le département de soins palliatifs. Et on a monté un département de recherche. Il y avait des recherches, mais ce n'était pas organisé, ce n'était pas regroupé. Alors, on a monté ce département-là aussi. On a monté... il y avait des résidences de médecins seulement. Et on a monté des résidences pour autres professionnels. Donc, de l'équipe multiprofessionnelle. Ça est très important pour l'oncologie, pour l'urgence aussi.
Soins palliatifs, naturellement.
Ouais. Oui, oncologie, soins palliatifs, c'était... Donc, on avait des infirmières, des dentistes, des pharmaciens, des psychologues, physiothérapeutes qui faisaient partie de cette équipe multiprofessionnelle. C'est très intéressant.
Est-ce que c'était des gens qui devaient se former au Brésil ou qui étaient déjà formés?
Qui avaient fait leur cours de graduation, mais qui voulaient une spécialisation.
Okay.
Et une spécialisation à modèle de résidence des médecins, il n'y en avait pas. Mm-hmm. Alors, le gouvernement a décidé, puis nous, on est embarqués dedans, puis on a travaillé dans cette chose-là. Mais je crois que un des plus gros défis que j'ai vécu, ça a été en 2005 aussi, quand je suis arrivée. Donc, comme il y avait des résidents, les médecins, les spécialistes disaient, ça serait le fun d'avoir notre propre cours de médecine. Alors, j'ai dit OK. Mais puis ils se lamentaient. Oh, on voudrait avoir le cours de médecine, puis on voudrait le faire. J'ai dit OK. J'ai dit où on décide de monter un cours de médecine. Hein? On organise une équipe, puis on fait des études, puis on va monter le cours de médecine. Ou je ne veux plus jamais entendre parler que vous voulez avoir un cours de médecine.
OK. Les métiers ou les filles.
Alors, je les ai mis au défi, c'est ça. Alors, ils ont dit OK, on va monter le cours de médecine. J'ai dit OK. Fait qu'on s'est mis il y avait une trentaine de personnes au début qui étaient intéressées, puis qui voulaient, mais comme dans tout, ça s'est réduit, on est resté sept. Hein? numéro parfait, là, le numéro magique. Et donc, on s'est mis à étudier, hein, parce que c'était nouveau pour nous tous. Hein. On travaillait avec les résidents, mais c'est une chose. L'autre chose, c'est un cours de graduation. Les Marcelines au Brésil avaient déjà une faculté d'infirmière, une faculté de technicien en radiologie, hein, et dans cours de pédagogie, cours d'art, enfin, plusieurs différents cours, mais il n'y avait pas le cours de médecine. Et donc, on s'est mis à étudier, ça nous a pris sept ans, c'est ça. Donc, en 2012, wow. Finalement, on a eu l'autorisation du ministère de l'Éducation et on a commencé le cours de médecine.
Wow, félicitations!
Oui, ça a été vraiment un beau défi, une grande conquête. Et enfin, un de nos buts, j'étais la seule médecin de famille entre eux, mais j'ai réussi à les convaincre de dire que notre faculté, nos cours de médecine, devaient vraiment donner une emphase importante sur la médecine de famille, parce que c'est les médecins que le Brésil a besoin pour vraiment donner une attention primaire forte. Et donc, ça a été beau parce qu'ils ont accepté le défi. Et donc, de la première année du cours de médecine jusqu'en sixième année, on jumelle nos élèves avec des équipes de santé de famille. Hein?
OK.
Donc, ils sont sur le même territoire.
C'est comme du mentorat, dans le fond.
Oui, ouais. Vraiment. Et ça fait partie de la méthode pédagogique de notre fondateur aussi, Monseigneur Louis Bilague, qui est celui qui a fondé les Marcelines. Et il y a donc, on a réussi à les jumeler, puis c'est vraiment une expérience transformatrice pour nos élèves, parce que souvent, les élèves de médecine viennent d'une autre couche sociale. Hein? Alors, de les envoyer dans les postes de santé, dans la périphérie, avec les agents communautaires, avec les infirmières, aller sur le terrain, faire des visites à domicile, enfin...
En immersion, hein?
Oui, c'est un cours d'immersion totale. Et en même temps, dans la première année et la quatrième année, on a introduit la discipline de spiritualité et thanatologie. Donc, spiritualité, parce qu'on veut les rendre plus sensibles et dire combien c'est important aussi pour le médecin, pour les professionnels de santé, aborder l'aspect spirituel des gens, hein, les aider à... C'est pas qu'on veut convertir tout le monde, mais les aider à prendre conscience que l'âme, l'esprit de la personne influence beaucoup la question de la santé biologique et physique et psychologique.
Ouais, ouais, ouais. C'est un tout.
Hein? Voilà. Hein? On n'est pas un âme et un corps, on est un tout. Hein, qui a un âme et un corps et un psyché. Puis on fait partie d'une société. Puis on est... Alors, il faut tout aborder ces choses-là. Quand on parle de la santé, hein, au point de vue santé intégrale, on doit être ouvert à ces choses-là. Donc, au niveau spirituel, on doit... être à l'écoute aussi et savoir respecter, hein, les choses qui sont différentes de ce que nous croyons, de ce que nous abordons. Et la thanatologie, hein, qui est l'aspect de l'étude de la mort, pour aussi les aider à être des médecins qui vont comprendre, hein, qu'il y a un cycle et qu'on doit respecter ça aussi, hein, cette partie, et qu'on doit... ça fait partie de la vie et c'est pas un échec de la médecine que tu as un patient qui va décéder, parce que aussi, ça va arriver.
C'est ça.
Mais des fois, dans les cours de médecine, on n'aborde pas ces thèmes-là. Et c'est quand on est sur le tas, quand on est dans le travail, qu'à ce moment-là, on va être confronté. Et si on n'y a pas réfléchi avant, des fois, ça fait des chocs.
Hein? Ouais.
Et donc, c'est ça. On pensait qu'on pouvait mieux préparer nos élèves de médecine si... On en discutait avant, pendant le cours de médecine, et ça a été très intéressant.
Ben justement, sur cet aspect-là, ça vous comptiez combien d'heures de discussion, d'enseignement, d'éducation par rapport à cet aspect?
C'était pas beaucoup, mais c'était un cours d'immersion. On avait 45 heures.
Quand même.
Ouais. Oui, dans le premier semestre et 90 heures dans le quatrième semestre.
Oui, c'est bien.
Oui, oui. Ça faisait partie du... c'est ça. Du curriculum, mais on y tenait que ça soit. Parce qu'un de nos objectifs comme faculté, comme cours de médecine, c'était de former des médecins plus humains et plus attentifs aux besoins
Donc, les services étaient humanisés par le fait même, c'est ça? OK, d'accord.
Donc, l'autre opportunité que j'ai eue, c'est que j'ai fait mon doctorat. J'ai fait ma maîtrise en épidémiologie et j'ai fait mon doctorat. Là, tout le monde travaille beaucoup, alors je ne me suis pas arrêtée. J'ai continué de travailler, d'être gestionnaire autant de l'hôpital et des postes de santé qu'en faisant aussi ma maîtrise et mon doctorat. Ça m'a pris, j'ai eu 20 ans de différence entre les deux. À la fin, c'est ça, je me suis décidée à faire le doctorat aussi pour le cours de médecine parce qu'on avait besoin des titres de personnes qui avaient le doctorat. Et c'était un thème que je trouvais intéressant et j'ai beaucoup appris aussi en faisant le doctorat. Donc, ça a été sur les causes, c'était les raisons pour lesquelles les médecins ne restaient pas dans la périphérie. Donc, dans les postes de santé, on a toujours eu moins de médecins que les postes nécessaires. On avait des postes vacants et il y avait un roulement très important. Et ça m'a fait beaucoup penser aussi que c'est un peu la même chose au Canada. Quand on passe dans les territoires ou dans les petits villages, c'est difficile.
Dans les petites régions.
C'est ça, il y a des petites régions qui n'ont pas de médecin. Et que le roulement aussi, si... Alors, c'est quoi le choix des personnes qui rentrent en médecine? Donc, alors, toute la discussion de la sélection, de qui va faire la médecine. Enfin, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses décrites sur ça parce que c'est un problème mondial, mais ça m'a fait réfléchir beaucoup et ça a été très intéressant. Mon professeur, mon orienteur était très, très gentil, très instruit et m'a vraiment guidée. Et c'est ça, donc j'ai trouvé quelque chose de très nouveau, mais j'ai pu le démontrer à travers des données d'une cohorte quand même assez importante. C'est ça, les implications.
Donc, c'est les raisons principales.
Oui, donc c'est justement parce qu'ils étaient jeunes et il y avait les questions structurales de l'endroit où ils voyageaient. Et au Brésil, donc, les médecins demeurent beaucoup en centre-ville. Alors, pour aller jusqu'à la périphérie, c'est loin. Ça leur prend beaucoup de temps.
C'est l'isolement, peut-être?
L'isolement et la violence.
OK.
Parce que c'est ça. Donc, il y a beaucoup de, malheureusement, de séquestres, même dans les postes de santé.
Vous avez fait ça quand même plusieurs années. On pourrait même écrire un livre, je pense, là-dessus. qu'est-ce qui vous a amené et quelle a été la situation qui vous a amené au Bénin où vous êtes présentement et qu'est-ce que vous faites? C'est différent maintenant, hein? C'est ça? Vous avez laissé quand même plusieurs années. Ça devait faire un petit pincement au cœur, je crois.
Oui, tout à fait. Donc, dans la vie religieuse, on fait un vœu d'obéissance. Et en 2010, quand on avait fait un chapitre qui est une espèce de synode de la congrégation, la mère générale à l'époque nous avait dit « Pourquoi vous ne faites pas des missions? » Pourquoi vous n'envoyez pas des équipes de santé au Bénin? Parce que les sœurs avaient déjà une école primaire et secondaire depuis 2006 au Bénin. Mais il y a tellement de nécessité, les Italiens font ça, pourquoi que les Brésiliens ne pourraient pas le faire? Alors, on a pris le défi, nous qui étions de la santé. Et mon frère est chirurgien maxillofacial. Et alors, ça faisait longtemps qu'on parlait ensemble, il était déjà venu me voir au Brésil, et je
lui est au Canada, je crois.
Oui, il est en Nouvelle-Écosse. Okay. Et j'ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas venir avec moi au Bénin? Puis on va essayer de monter des équipes, puis on pourra aller. Alors, on est allé en 2010. Après, on est retourné en 2011 avec un peu de Canadiens, un peu de Brésiliens. Et on a fait notre première mission dans un hôpital qui s'appelle l'hôpital La Croix des Camiliens. Qui était l'hôpital, parce qu'en 2010, on avait fait une espèce de visite de reconnaissance. Et donc, en 2011, on a fait la première équipe. Donc, on a fait beaucoup de consultations. Il y avait des chirurgiens avec nous, alors ils ont fait des chirurgies là-bas. Et ça s'est très bien passé. Les gens sont venus parce qu'on voit vraiment la pauvreté tangible. Parce que les gens, là-bas, il n'y a pas de système de santé organisé, universel, comme le Canada ou comme le Brésil. Et donc, les gens doivent payer pour tout. Et donc, ils laissent beaucoup aller. Il y a beaucoup de gens qui meurent sans avoir de soins. Et donc, c'est ça. On a eu la possibilité d'aider quand même une centaine de personnes en faisant des chirurgies et qui n'auraient pas eu la possibilité de faire des chirurgies si nous, on n'était pas allés.
Juste vous et votre frère pour le moment.
Non, à ce moment-là, on était déjà avec une équipe de Canadiens et une équipe de Brésiliens. Okay. Puis après, donc, les missions se sont succédées. Il y a eu après des équipes juste de Canadiens, des équipes juste de Brésiliens. Jusqu'en 2020, en 2019, la mère générale a fait un appel parce qu'il y avait trois sœurs qui étaient au Bénin, mais il y en a une qui devait partir. Il y en a resté seulement deux. Elle ne trouvait personne pour y aller. Et elle voulait qu'on essaie de diversifier un peu la mission au Bénin. Alors, c'est ça. C'est là que j'étais abordée aussi en disant, mais si je pouvais me disponibiliser pour aller là-bas. Certains, c'était pas facile de laisser tout ce que j'avais. Mais en même temps, c'était un nouveau défi. Puis je me disais, bon, je connaissais un peu le Bénin, j'étais allée et tout. Je savais qu'il y avait des grands besoins. Et je me disais, bon, en étant là-bas, je vais ramener aussi des personnes brésiliennes qui vont m'aider du Canada. Donc, je vais pouvoir faire un pivot pour attirer les gens pour qu'on puisse aider un des pays les plus pauvres du monde. Bon, au niveau de l'indice du développement humain, il y en a 190 qui sont organisés. Le Bénin est 166. Wow. 166e. Alors, il est dans la dernière fin. Le Canada est 16e.
Wow, ça nous donne une perspective, hein?
Oui, ouais. Alors c'est ça, le Canadien. Nous, on est très choyés là-bas, c'est ça. Donc, en 2020, je suis partie du Brésil avec beaucoup de pincements de cœur, c'est ça. Mais en même temps, en ayant la certitude que j'avais pu contribuer un peu au système là-bas, que j'avais laissé beaucoup de personnes importantes, que j'avais formé des personnes qui pouvaient faire le travail mieux que ce que j'avais fait.
Vous avez assuré une pérennité aussi.
Voilà, hein, tout a continué et ça nous donne l'humilité aussi de dire qu'on n'est pas essentiel. C'est sûr qu'on est unique, mais...
Catalyseur.
C'est ça, et qu'il y a d'autres gens qui peuvent faire les choses aussi et que ça va être différent. Et je suis arrivée ici en 2020 et ça a été le COVID.
Hein. Ah ouais.
Donc, je devais partir après 2 mois. J'avais demandé de rester dans ma famille un petit peu. Et finalement, il y a eu le COVID, je suis restée 6 mois. Alors, je suis restée au collège et à l'amitié. Hein. Et donc, j'ai eu une opportunité aussi parce que comme il y avait besoin de médecins ici, j'ai fait application à la santé publique et j'ai fait partie de la brigade du COVID.
Ah, OK.
Qui a été la brigade qui a visité les différentes RPA et tout. Et finalement, comme j'étais religieuse et médecin, ils m'ont donné la tâche spécifique d'aller visiter les congrégations religieuses. Alors, j'ai eu l'opportunité en 2020 de visiter toutes les congrégations religieuses qui étaient ici sur l'île de Montréal. Vraiment, j'ai appris des choses sur l'histoire de l'île. Et bon, vraiment, ça a été une opportunité. Et finalement, les aéroports se sont réouverts et en 2020, en août 2020, le 13 août, je suis partie pour le Bénin, où je suis jusqu'à maintenant. Donc, j'ai commencé à travailler un peu dans l'hôpital des Caminiens. On était allés plusieurs fois en mission. J'ai aidé un peu au niveau de la gestion, implanter le SWOT, les qualités, la vision, mission, valeur, en fait, tout ce qu'on... pour essayer d'organiser un petit peu les protocoles. Alors, ça a été un beau défi. Mais il y a le directeur qui a changé. Alors, ce projet s'est arrêté un peu. Parallèlement, je travaille à l'école. Donc, notre école a 660 élèves. Et je fais la visite médicale préventive de tous les élèves, tous les ans. Ça fait 3 ans. Et... donc, la mission la plus importante, je crois, c'est celle de la pastorale de la première enfance, qui est un mouvement qui a commencé au Brésil. C'est à travers l'Église et c'est à travers des volontaires, donc qui sont choisis par le prêtre, par les personnes de la paroisse, pour, dans le fond, visiter les familles les plus vulnérables, qui peuvent être pas nécessairement catholiques, qui sont de... Là-bas, il y a 40% à peu près de chrétiens catholiques, il y a 30% de musulmans et il y a les autres religions, et surtout la religion vaudou, endogène, autochtone qu'on appelle. Et donc, ces volontaires visite les familles, hein, entre 10 et 15 familles par volontaire. Et après, ils les réunissent une fois par mois pour faire ce qu'on appelle la célébration de la vie. Et dans cette célébration, ils partagent, ils font l'éducation populaire. Donc, on discute sur la malaria, sur ce qu'on appelle aussi paludisme. On discute sur la diarrhée, comment faire le sérum maison. Hein, on donne une petite cuillère qui donne les mesures exactes pour le sucre, le sel qu'on met dans l'eau. On travaille sur les causes, on travaille sur la question de la grossesse, de comment bien se tenir, de comment aller chez le médecin, de faire les examens qui sont nécessaires. On travaille aussi la puériculture. On pèse les enfants pour accompagner leur croissance. Et les enfants qui sont mal nutris, hein, donc il y en a plusieurs, on a un brassard spécial qui mesure la grosseur du bras. Et quand c'est dans le rouge ou le jaune, ça veut dire que l'enfant est malnutri. Alors, à ce moment-là, on a recours à des centres de crèche ou de nutrition, hein, de récupération nutritionnelle, où la famille est pratiquement hospitalisée avec l'enfant. Et on donne à manger 6 fois par jour.
Hein, wow.
Pour que l'enfant, ça, l'enfant puisse...
Donc, c'est vous dites pastoral, mais c'est beaucoup axé vers la santé pour être capable, justement, de...
Oui. Oui.
De bien vivre, puis d'aller à un autre niveau. Là.
C'est ça. C'est ça, hein? On l'appelle pastoral parce que c'est volontaire.
Le travail,
oui,
c'est ça.
Okay. C'est volontaire et c'est à travers des agents qui sont de l'Église. Et on aime mettre beaucoup de spirituel dedans aussi. Ouais, alors, ouais, on parle de la parole de Dieu, même si on est dans toutes les différentes religions. On prie ensemble et on chante et les Béninois dansent.
Oui, oui, oui. Alors, oui, justement, c'est des bons vivants.
Oui. Ouais. Même s'ils n'ont rien, c'est ça. Ils nous montrent vraiment la joie de vivre.
C'est ça.
Et des fois, c'est ça qui est frappant, même la au Brésil.
Hein?
La résilience, mais vraiment, c'est les personnes les plus pauvres, c'est les personnes, des fois, qui sont les plus joyeuses parce qu'ils n'ont rien. Mais ils
s'attendent pas.
Oui, ouais. Ils remercient Dieu pour tout. Hein, vraiment, nos célébrations en église et tout, c'est vraiment joyeux et ça dure. Alors, des fois, les messes de Noël au Pâques, c'est 4 heures. Mais tu ne sens pas vraiment que tu restes 4 heures à l'église.
C'est
parce
ça.
Que c'est plein de chants, c'est plein de joie, les gens.
Les enfants, il y a beaucoup d'enfants. Hein?
Beaucoup. Moitié de la population a moins de 20 ans.
OK. Alors, au Bénin.
Au Bénin. Ouais. Alors, quand tu vas à l'église, c'est des jeunes qui sont là. Mm. Et c'est beau. Juste ouais. À notre paroisse, par exemple, on a 7 chorales différentes.
Oh my God.
Donc,
oui.
Tous les jours, il y a une chorale différente qui chante, même okay. Pendant la semaine. Et c'est ça. Donc, quand il y a les fêtes, pour eux, le tissu est très important.
Oui, hein? Ouais.
Et donc, ils mettent un tissu différent pour la fête. Par exemple, c'est la fête de la paroisse ou quelque chose. Il y a eu 25 ans. Alors, tout le monde a acheté le tissu dans la paroisse et ils font les vêtements à partir. Et tout le monde est vêtu pareil.
C'est drôle parce que vous me dites tissu, puis moi, ce qui est venu en tête, c'est le tissu social en même temps.
Oui, parce que tout le monde est frère et sœur. Ah, mon frère, ah, ma sœur. Et il dit, ah, ça, c'est mon frère, mais dans le fond, c'est son cousin. Mais pour eux, c'est des frères.
C'est ça.
Donc,
c'est
comme
ça.
Dans le temps de Jésus aussi.
Oh, wow! Mais pour vous, justement, il y a quand même des gros défis aussi au niveau de la santé au Bénin, hein? Parce
oui.
que j'avais lu que même malgré les terres agricoles, les gens...
ne mangent pas bien.
C'est ça.
Oui,
c'est ça.
Donc c'est ça. Il y a beaucoup de malnutris. Tu dis, bon, c'est un pays qui a quand même beaucoup de fruits. L'ananas, c'est le meilleur du monde.
Je dis vraiment, ouais.
C'est très juteux, très sucré, très, très bon. Mais il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas. Et pourtant, au marché, il y a plein d'ananas, il y a plein de bananes, il y a des oranges, il y a des mangues, il y a avocats. Mais c'est pour d'autres personnes, c'est pas pour tout le monde. Alors,
est-ce que c'est à cause du coût ou...
Oui,
plus...
oui, mais c'est des choix aussi.
Ouais. Hein. Qu'est-ce qu'ils prennent à la place?
Ils prennent beaucoup de féculents, hein, beaucoup
okay.
de farine, de pâte
okay. ouais.
et de poisson.
Ouais.
Au moins, ils mangent des protéines.
Ouais.
Mais aussi, maintenant, il y a des sucreries, il y a toutes sortes de choses. Alors, nos enfants, on essaie de travailler avec eux beaucoup. On a monté un jardin écologique.
Okay.
où une fois par semaine ou une fois par deux semaines, toutes nos classes passent par le jardin et apprennent comment semer, apprennent à faire le compostage, parce qu'il y a aussi toute la question du gaspillage et de, du plastique et tout. Alors, on essaie vraiment de travailler
c'est
avec
mondial,
eux.
C'est mondial.
Oui, oui. Et le pape nous rappelle qu'on doit vraiment faire vite et faire quelque chose. Alors, il y a toute l'encyclique de Laudato aussi, et maintenant la carte encyclique de Laudato Deum qui est envoyée. Donc, on travaille beaucoup avec les élèves cet aspect pour leur donner l'importance de bien soigner la terre, qui est notre maison commune. C'est ça. Donc avec les gens et tout, on essaie de travailler cet aspect. Mais encore, il y a beaucoup d'enfants qui décèdent. Mmh. Et donc, ça, c'est triste. Et
quelles sont les raisons principales?
La cause principale des enfants en bas de 5 ans, c'est la malaria. On se dit, non, le COVID est venu, il y a eu toutes sortes de... toutes sortes de discussions, et c'est pas, ça ferait tout un topic. Mais on a quand même développé des vaccins en 10 mois. Hein? Ouais. Et la malaria existe depuis des centenaires. Et on n'a toujours pas le vaccin. Il y a des millions de personnes qui sont mortes et qui continuent de mourir à cause chaque année.
Mais il n'y a aucun vaccin qui existe.
Bon, donc maintenant, ils sont en train de faire des essais, mais ce n'est pas encore universel. Apparemment que ça va aider, mais ce n'est pas encore rendu au Bénin. Mm. Et c'est ça. Donc, on essaie de... Et ce qui arrive, c'est que comme les soins ne sont pas gratuits, quand l'enfant commence à avoir de la fièvre et... à des symptômes de la malaria. Donc, c'est la fièvre et les céphalées, les maux de tête, hein. Des fois des diarrhées ou des vomissements, mais surtout, les parents ne les amènent pas au poste de santé.
Hein. Ça coûte trop cher pour
ça
eux.
Ça coûte cher, c'est ça. Et donc, ils vont chez le guérisseur traditionnel, ils donnent des herbes. L'enfant, normalement, est capable de sortir de cette malaria, mais ce n'est pas bien traité. Il en fait d'autres. Et à chacune, il perd un peu de globules rouges. Hein, donc, il devient plus anémien. Et quand finalement, l'enfant est vraiment mal, il l'amène à l'urgence, des fois, l'hémoglobine qui devrait être 12 est 3. Oh, wow. Alors, il faut donner une transfusion d'urgence. Les hôpitaux ne sont pas préparés. Ils n'ont pas de banque de sang. Alors, l'enfant meurt pour anémie, pour malaria sévère.
En 2023, hein?
Oui, oui. Et ça, c'est souvent comme à l'urgence à l'hôpital des Caminiens, toutes les semaines.
En ce qui vous concerne, est-ce que vous avez le droit de pratiquer là-bas?
Oui, donc pas encore. les missionnaires viennent et ont une autorisation spéciale quand ils viennent pour pratiquer pendant 3 mois, okay. Jusqu'à 3 mois. Mais comme moi, je suis sur place, c'est paradoxal, mais c'est ça. Donc j'ai fait ce qu'on appelle... l'authenticité. Il voulait voir si mon diplôme était vrai. Et ça, c'est vrai. Il veut voir l'équivalence. Ils ont fait l'équivalence avec le cours de médecine de là-bas. C'est fait. Mais je dois être citoyenne béninoise pour pouvoir pratiquer. Alors, je suis en cours et probablement qu'au mois de mars, je devrais avoir ma citoyenneté et pouvoir officiellement pratiquer. De toute façon, en janvier, je vais commencer à... Parce que aussi, par toutes sortes de circonstances de providence, je me suis associée à un groupe qui est venu en mission au Bénin parler sur les soins palliatifs. Mm. Et comme médecin de famille, donc on a une formation. Et au Brésil aussi, j'ai aidé à organiser les soins et tout. Donc, je me suis associée à eux et je vais commencer à implanter les soins palliatifs dans l'hôpital des religieux caméliens. Où j'ai aidé un peu dans la gestion. Alors, c'est ça. En janvier, je devrais commencer à organiser le système pour qu'en mois de mars, quand je vais avoir ma licence, pouvoir pratiquer là-bas.
Donc, qu'est-ce qui vous intéresse quand vous aurez la permission? Vous allez travailler avec les jeunes, avec les soins palliatifs?
Oui, avec les soins palliatifs. Donc, c'est ça. Dans l'hôpital, mais je vais continuer l'importance de la pastorale. On espère... de grandir sur d'autres paroisses. On est maintenant sur 10 paroisses dans 3 diocèses différents. Et c'est ça. Donc, on a des projets pour commencer dans les autres paroisses un peu aussi. Parce qu'on se dit, si on est capable au moins d'éduquer la population, d'essayer de diminuer la malnutrition, on donne le fer et l'acide folique pour toutes les femmes enceintes. et aussi le faire pour les nourrices. Mm. Hein. Donc, on essaie de diminuer un peu l'anémie parce que, donc, en plus des enfants qui meurent, il y a les mamans qui meurent à l'accouchement.
Ouais, hein, ouais.
Parce qu'elles non plus ne vont pas les soins prénataux.
Mm.
Donc, elles ne prennent pas le fer et l'acide folique. Elles arrivent anémiées à l'accouchement et elles saignent.
Parce que normalement, ils devraient payer pour ça, puis parce que c'est plus pauvre, les gens n'ont pas accès.
Voilà.
Donc, de quelle façon que vous pouvez faire ça?
Donc, on fournit le fer et l'acide folique, mais on le donne. Les agents accompagnent, et comme c'est norme universelle de l'Organisation mondiale de la santé de donner le fer et l'acide folique, donc on le donne aux femmes. Et c'est ça. Donc, c'est ce qui fait, enfin, c'est un gros défi parce qu'on dit plus on va grandir, plus on va embrasser d'autres paroisses, plus on va avoir besoin de fer et l'acide folique. Le coût est bas, mais quand tu multiplies par 300 femmes enceintes, bon, ça fait un petit montant qui est quand même important. Et voilà. Donc, et plus aussi on embrasse de paroisses, plus on trouve des enfants malnutris.
C'est ça.
Plus
les besoins sont là. C'est juste que ils sortent au fur et à mesure que vous promenez et essayez de rejoindre d'autres paroisses.
Parce qu'on éduque, on va aider ceux qui aussi. Hein. On essaie d'aider les personnes à se prendre en main aussi. Alors, dans les paroisses, il y a les groupes de Caritas. On essaie de travailler ensemble pour que chaque paroisse aussi devienne autonome. Mais
vous êtes satisfaite des résultats jusqu'à maintenant, en tout cas?
Oui. C'est un grand défi parce que c'est avec des bénévoles.
C'est
y a un peu de l'habilité. C'est pas 100%, c'est pas constant. Il y a des fois... Et on a besoin de motivation. Et des fois, c'est ça. Donc, même si les gens ont un bel esprit de vie, ils croient beaucoup en Dieu et tout, je veux dire quelque chose, mais c'est la réalité. Donc, je suis toujours blanche. Hein? Parce que c'est une Afrique noire. Hein?
Ouais.
Et donc, ils s'attendent à avoir des cadeaux. Hein? Quand ils voient des blancs, c'est cadeau. Parce que c'est comme ça qu'on les a formés.
Ouais, c'est ça.
Quand les blancs venaient, ils donnaient des cadeaux. Hein? Alors, de dire que non, moi, je suis avec vous, on est ensemble, on va travailler. Donc, c'est un gros défi aussi.
C'est un gros défi pour vous faire accepter ou pour la question des
les deux. Pour me faire accepter au niveau de la pastorale en soi, c'est plus parce qu'ils attendent des choses, hein, parce qu'ils pensent que moi, j'ai plus d'argent qu'eux. Hein. Et ils attendent que je donne des choses. Hein. Alors, c'est pour ça que c'est important de travailler avec les personnes localement et les former.
Ouais.
Donc, qui maintenant fait la formation et tout, ce sont les personnes que j'ai formées.
Ouais, ouais.
Mais c'est eux-mêmes qui forment. Alors, c'est plus facile, ça passe mieux, c'est ça. Il y a aussi la question de la langue locale. Hein, que moi, je ne parle pas. Alors, c'est pas... La langue officielle est le français, mais ce n'est pas tout le monde qui parle le français. Alors, surtout dans les périphéries, dans les villages et tout.
Vous avez des interprètes, je suppose, c'est ça.
C'est les gens locaux qui parlent la langue. Hein.
J'avais juste un petit aparté ici. J'avais lu qu'à un moment donné, dans les déplacements, c'était venu me chercher. Il y a une journée, vous vous déplaciez en voiture, puis la voiture arrêtait encore souvent. Non, j'étais juste curieuse de voir comment... ça a l'air d'être courant, là, je suppose, puis comment on peut faire son travail à travers tout ça.
Oui, vraiment, ça a été... Cette année, surtout, ça a été pénible parce que, c'est ça, la voiture a eu 1000 problèmes. Hein, c'est pas qu'elle est trop vieille. Elle avait 60 000 km à peu près. Mais... Il y a tout eu. Et puis même à un moment donné, je me suis dit, ça a juste été la providence et je suis encore en vie parce que le panneau de bord s'est complètement arrêté. Puis il y avait un camion en arrière de moi. C'est juste parce que je conduis, ça fait 40 ans, je me suis lancée sur le côté que j'ai été capable de survivre parce que sinon, je restais là. C'est ça, il y a toujours eu des crevaisons. Les routes ne sont pas tellement bonnes. Il faut dire que le gouvernement a travaillé beaucoup sur le développement. Donc, il y a beaucoup de nouvelles routes. Les accès sont mieux maintenant pour aller de la Cotonou jusqu'à où est-ce que nous demeurons. Ça prend 50 minutes à peu près.
Mmh.
Ça prenait 2h30.
Hein. Oh, wow.
La route était impossible.
Ouais.
Donc, pour faire ces trajets-là, ça va. Mais maintenant, pour aller en campagne, dans les autres diocèses où on va, ça a été très difficile. Et finalement, donc, la fondation que ma famille a mis sur pied
ouais, ouais, ouais.
a... a aidé à acheter une nouvelle voiture. Dans le fond, c'est une camionnette.
Hein. OK. Ben justement, pendant que vous l'abordez, parlez-nous donc justement de la Fondation Bourget.
Oui, donc quand les missions ont commencé, comme mon frère a organisé différentes missions, donc pour pouvoir avoir des dons aussi pour aider à apporter là-bas des prothèses, des médicaments quand il faisait les missions, il a mis sur pied cette fondation.
À quelle année?
C'était en 2008,
je crois.
Oui.
Autour, hein? Ouais.
Autour. Quand elle est au Brésil en premier. Hein? Et donc, c'est ça. Donc, c'est une fondation qui a été mise sur pied pour donner le soutien aux missions. Et depuis que je suis au Bénin, donc la mission est plus présente parce que, justement, on doit acheter des médicaments pour donner pour les femmes enceintes et pour les nourrices et aussi pour payer les hospitalisations des enfants. Mmh. Et il y a des enfants qu'on rencontre qu'on doit... investir un peu plus, donc faire des chirurgies d'hydrocéphalie, qui est des enfants qui ont de l'eau accumulée dans le cerveau, là, à cause de problèmes de conduit. Alors, on doit mettre des valves et la famille, impossible qu'elle puisse s'offrir une chirurgie comme ça. Alors, on a sauvé quand même quelques enfants, hein? Donc des mélodies, on les appelle les immaculés. Leurs noms, ils sont tellement beaux. Ils s'appellent amour, précieuse, oui, précieuse, trésor, amour, c'est ça. Donc on aide à donner une opportunité vraiment pour ces enfants qui n'auraient jamais eu d'autres, qui seraient déjà décédés.
Mm. Hein. Mais juste pour nous donner une idée de grandeur, justement, des coûts, avez-vous quelques exemples des coûts?
Oui.
Et qu'est-ce que les gens, quel est leur revenu et qu'est-ce que ça coûterait pour une intervention, par exemple?
D'accord. Donc, le salaire minimum d'une personne officielle, c'est 52 000 CFA, des francs français. Ben, ça équivale à peu près à 118 $ canadiens par mois.
Par mois,
oui. Okay. Donc, ça, c'est leur salaire du mois. Beaucoup de gens travaillent au marché ou informellement, alors ils ne gagnent pas ça. Et une chirurgie, par exemple, une chirurgie pour mettre une valve pour un enfant qui a une hydrocéphalie, qu'on a déjà mis deux, c'est environ 600 000.
Qui serait...
12 mois de salaire d'une personne. Qui serait peut-être 1000 $ à peu près.
Et donc, les gens donnent vont totalement ou presque pour des interventions de ce genre, là, j'assume, c'est ça?
Mm. Et pour payer, en fait, c'est ça, les hospitalisations des enfants qui sont malnutris.
C'est ça, ouais.
Parce qu'on les laisse 2 mois. Ça, ils ont souvent des examens à faire, c'est des choses comme ça. Des maladies, ils tombent tous malades.
Non, ça fait combien de... C'est quoi, au niveau des statistiques, le nombre d'enfants, par exemple?
On en a environ 2 par mois qu'on envoie. Okay. Ça fait 1 an et demi à peu près qu'on les envoie au centre. Alors, donc, il y en a peut-être une trentaine qu'on envoyait.
C'est un beau succès quand même. C'est des enfants qui n'auraient pas survécu, dans le fond.
Oui, oui. Oui.
Mais c'est une affaire de famille, cette fondation.
Oui, oui, c'est
Puis
ça.
Pouvez-vous nous dire quelques mots là-dessus?
Donc, c'est ça. C'est mon frère qui est le président, qui l'a fondé, qui l'organise, mais tout le monde de la famille participe. Et je crois qu'on peut être fiers de travail le soutien que ça peut nous aider. Mm-hmm. Et vous êtes invités à nous aider aussi à faire ce travail. Alors,
oui, mais je vais le mettre les coordonnées dans le podcast aussi. Donc, si les gens sont interpellés, ça serait une bonne façon de
Il y a des reçus d'impôts qui sont émis pour les dons au-dessus de 50 $.
D'accord. OK. C'est noté. tantôt, ça me trottait dans la tête, c'est quand vous avez étudié en médecine, parallèlement pour...
La vie religieuse.
Oui. Mm-hmm. Comment vous voyez ça? Parce que vous ne saviez pas ce qui était pour arriver. Vous êtes au Bénin, vous avez été au Brésil. Comment ça jouait pour vous de dire, ben, je choisis ça ou je choisis ça? Vous avez dit non, je fais les deux. C'est comment vous avez interprété tout ça, là, ces appels-là?
Mais pour moi, je crois ça vraiment dans le sens que je crois qu'on est une personne seule et que le spirituel et le corporel vont ensemble. Alors, ça interpellait beaucoup mes collègues. Hein, et j'étais, comme j'ai un habit et je l'ai toujours porté depuis mon premier jour de médecine, ça interpellait les gens et j'étais souvent mise pour donner mon opinion, des choses comme ça, ça me plaisait pas tellement. Mais parce que je suis plus une personne d'action qu'une personne qui va faire beaucoup de philosophie. Mais pour moi, ça allait ensemble. Et pour moi, la médecine a été une contemplation parce que vraiment d'étudier le corps humain, la merveille que nous sommes, ça a été...
La vie,
oui, vraiment,
la maladie.
De comprendre comment ça fonctionne le corps et tout, ça a été vraiment... Puis je pense que McGill, pour moi, a été vraiment... c'est mon alma mater qu'on dit, non? Et je continue de revenir et d'avoir des contacts avec des médecins d'ici parce que je crois vraiment que la médecine, c'est quelque chose de beau, de fascinant et la spiritualité, c'est pas du tout à part de la médecine. Ça fait partie de... Et il y a toujours eu beaucoup de respect. McGill est juif, dans le fond, non? Mm-hmm. D'origine juive. Et il y avait beaucoup de mes collègues qui étaient juifs et tout. Et on discutait beaucoup de religion. Hein? C'était... Mm-hmm. Alors, c'est ça. Pour moi, c'est
allé ensemble. Donc, c'était pas un choix. Non. C'était vraiment... Le choix était, je peux pas faire un sans faire l'autre.
C'est ça.
Parce qu'en fait, aussi, le corps, le physique et tout ça, c'est que c'est un prétexte aussi pour rejoindre l'autre.
Oui.
Hein,
oui, oui.
Dans un état, souvent, quand on a une maladie, c'est les gens ont beaucoup de défis, puis même en s'en allant vers la mort. Donc, les soins palliatifs, ça devrait être super intéressant.
Oui.
Pour
oui.
vous, là, d'être capable de faire ça. En tout cas, je vous souhaite tout le succès que... Bon, en tout cas, vous en avez déjà beaucoup de succès, mais je vous souhaite davantage du succès là, pour vous faites une grosse différence. Merci.
Merci beaucoup à vous.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ancrage Travail. Voulez-vous en connaître davantage sur différents enjeux qui pourraient vous intéresser? Alors suivez-nous sur facebook.com/Ancrage Travail et partagez dans vos réseaux. Au revoir et à notre prochain épisode.